Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur Amix Réflexion. Ça fait plaisir de se retrouver pour le numéro 226. C'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, surtout sur YouTube. Bizarrement, c'est beaucoup, beaucoup sur YouTube qu'on a des abonnés nouveaux chaque semaine. Et on est aussi en live sur Facebook, sur Twitch et aussi au format podcast où là aussi ça marche pas mal. Il y a pas mal d'écoute, donc c'est plutôt cool. Ça fait plaisir en tout cas. On est assidus en ce moment, toutes les semaines. Un live avec plusieurs personnes, plusieurs invités. Ce soir, on a mis le paquet puisque ça va être 100% enduro. Ça fait plaisir de revenir un petit peu dans ma discipline à moi. Et là, on a trois invités de marque. À 20h30, on va démarrer. On démarre d'ailleurs tout de suite avec Jérémy Taroux. 20h50, ce sera Kylian Lunier. Et à 21h10, on terminera par Hugo Blanjou. Voilà, début de semaine agité. Il y a les jours fériés qui arrivent, mais au final, ça bosse quand même chez Amix Réflexion. Ça bosse même pendant les jours fériés. On a des motos à tester. On a beaucoup, beaucoup de vidéos à produire aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est plutôt cool. On est content. Peut-être qu'un jour, on sera riche. Hein, Blaise?
Ben ouais, bonsoir à tous. On est autant à la retraite que qu'à notre invité, je crois. Une retraite.
Ouais, exactement. Ouais, elle est un peu loin. Elle est un peu loin à la retraite. On va essayer de pas trop y penser parce que sinon ça va nous faire mal au cœur. Plutôt que de penser à la retraite, on va dépenser du pognon comme on est en train de faire là, voilà. Acheter des caméras, des drones et tout. On se fait plaisir. C'est fait pour ça l'argent. C'est fait pour être dépensé.
Exactement. Bon, comment ça va, Jérémy?
Les gars, mais ça va. Écoutez, merci pour l'invitation.
Ouais, retraite, Jérémy, juste, on t'avait pas prévenu, mais c'est pas ça la retraite en fait. C'est pas ce que tu es en train de faire là. Ça fait 2 ans qu'on te reçoit dans nos lives, on dit ouais, semi-retraité, retraité, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça.
Si, non, mais je fais plus championnat, mais c'est vrai que la passion, elle est toujours là. Donc, l'enduro, c'est un sport qui permet de rouler assez longtemps, donc on essaie d'en profiter. Et tant que ça fonctionne et que ça marche, on en profite. Après, on le fait encore sérieusement, mais un jour ou l'autre, on sait très bien que forcément, ça va pas faire en s'améliorant.
Toi, quand tu signes dans un team, du coup, t'as quel statut et tu as quel. Est-ce que tout ça, c'est prévu à la base déjà? Le fait que tu fasses. Que tu continues à rouler, que tu fasses des épreuves, c'est prévu ou
Alors,
pas?
honnêtement, pas trop. Après, on ne croit jamais au final. Mais non, quand j'ai arrêté avec l'académie, j'avais il y a 2 ans d'entraîner l'équipe, j'avais un peu de mal avec les déplacements. J'ai eu Clara qui est arrivée, la deuxième. Du coup, c'était un peu compliqué de partir. Pas mal de semaines, quasiment toute l'année. Et aussi, j'ai eu un peu de mal à partir quasiment toutes les semaines et ne pas faire tous les repérages avec les pilotes et ne pas rouler. Quand on coupe vraiment comme ça d'un coup, c'est pas évident. Ça, j'ai eu un peu de mal à l'accepter. Du coup, je préférais quand même bien couper et me dire que la moto, voilà, c'était pour me faire plaisir. Donc, que la moto, ce serait pour moi quand j'aurais envie d'en faire, les déplacements ou quoi. Ce serait vraiment pour voilà, les classiques et puis rien d'autre et faire de la moto pour moi de mon côté. Donc, l'an dernier, c'est parti comme ça avec Elite Moto, avec qui j'ai toujours eu de bons contacts, avec Jacques Delbert. On est amis et j'avais voulu partir avec lui pour faire les 5 classiques. Et pas vraiment de mécano, à part bien sûr au RD chez moi. Que vous connaissez très bien, Sébastien qui m'a toujours aidé. Donc, on préparait les motos ensemble. Il m'aidait parce que moi, je suis pas un très grand mécano. Mais au final, j'avais une petite structure pour les classiques avec les autres amateurs et certains bons pilotes aussi d'élite de moto qui venaient sur les classiques. On était une petite dizaine. Et au final, on en a gagné 3 et on a fait 2 des 2 autres. Donc, c'est ça un petit peu qui a fait qu'on s'est retrouvé à. En rouge cette année et avec un contrat, on va dire, un peu plus officiel, quoi.
Est-ce que c'est dur justement pour tes partenaires comme Seb, tu vois, au RD, de changer de couleur à nouveau? Est-ce que, bon, lui, on sait qu'il connaît quand même bien la mécanique de toutes les marques, mais là, voilà, rechangement avec d'autres habitudes peut-être pour toi, il a fallu se refaire à la machine. Comment ça s'est passé pour ce type de partenaire?
Non, mais d'un côté, au final, à chaque fois qu'on change de moto, on apprend de nouvelles choses. Et par exemple, l'an dernier, par rapport au WP, bah, avec les KT, on les connaissait pas vraiment. Et du coup, il a appris à certaines choses dessus, moi aussi. Et je pense que ça lui sert aussi pour ses clients qui viennent ensuite lui faire des prépas, demander des prépas. Et là, pareil, on passe sur des Showa, on passe sur des Honda. Donc là, encore nouveau. Moins d'expérience là-dessus et au fur et à mesure ben, on apprend que ce soit voilà, de mon côté ou du sien. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, oui. Il n'y a aucun problème avec Sébastien, il s'adapte.
Et le pilote, du coup, tu en es où? Est-ce que tu continues à t'entretenir physiquement ou vraiment tu bases tout sur le feeling, l'expérience?
Non, ben, c'est par rapport au temps que j'ai. Du coup, on va dire qu'actuellement, depuis ça, c'est la deuxième année. Je fais moitié, enfin je suis à mi-temps quoi. En gros, moi, moitié moto et moitié dans une agence de construction de maison. Donc voilà, l'année dernière, c'était une année qui était correcte au niveau du travail pour une première. Mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu la conjoncture actuelle, donc c'est moins facile. Donc ça m'a laissé un peu plus de temps pour la moto, mais il le fallait aussi parce que développer une Honda, c'était moins facile que l'année précédente. Ça nous a pris plus de temps. Donc d'un côté, c'est bien tombé, mais c'est vrai que voilà, je jongle un peu sur les deux. Donc l'emploi du temps est assez chargé entre tout, entre la vie de famille et le travail vraiment réel sur Albi et la moto. Mais le sport, par contre, le sport, ben pour moi, c'est pas une corvée. Je fais du sport quand j'ai du temps. Donc, quand les journées sont pleines, je le fais avant le matin tôt, avant d'amener les petits à l'école, ou sinon après, quand les beaux jours reviennent, plutôt le soir. C'est naturel. C'est un plaisir avant tout. C'est juste un entretien. Mais par rapport à la moto, oui, j'essaie de rouler une à deux fois en moyenne par semaine, mais de tenir vraiment ça tout le temps, quoi.
D'accord.
De jamais vraiment couper. Des fois, je coupe pendant deux semaines ou trois semaines, ça arrive. Mais de garder un rythme. Avant, je roulais quatre fois semaine en moyenne. Là, c'est plus une à deux fois, mais de le faire tout le temps. Au moins, ça me maintient. Mais c'est sûr que je n'ai pas du tout le niveau physique que j'avais avant. En classique, les spéciales sont assez faciles. C'est des courses faciles physiquement. Donc, ce n'est pas un souci. Mais si je devais faire les championnats, y aller comme ça serait compliqué.
Du coup, sur les classiques, tu as gagné la grappe cette année. Tu le vois comment? Du coup, tu dis que physiquement, pour toi, ça va. Du coup, c'est parce que c'est une classique. Du coup, tu peux l'encaisser. Mais toi, réellement, sur les chronos, tu roules à combien? Tu es à 80, 90, 100% comme à l'époque, ou tu as quand même de la marge?
Ah, on est quand même. C'était spécial, plutôt courte en général. Il y a beaucoup de temps entre. En fait, les classiques, c'est un effort très particulier parce qu'une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il faut pas mal d'expérience, beaucoup de repérage. Mais ça, les pilotes qui roulent, ils le savent. Donc, maintenant, on peut plus trop, on va dire, être plus fort que les autres sur le repérage parce qu'ils prennent le temps, ils savent que c'est très important. Mais on va dire que je suis quand même, par rapport aux spécialistes des classiques, mon point fort, c'est que je suis aussi pas mal les dimanches quand c'est tracé. Et quand on y passe qu'une fois et qu'on découvre vraiment des nouvelles traces sur le moment. Et ça m'a toujours... Ça m'a toujours réussi et c'est là où j'ai toujours fait la différence. Donc j'arrive à la faire encore actuellement. Après, ça s'est de plus en plus serré, mais les classiques, ça a toujours été serré, que ce soit à la grappe avec Blanjou, ça l'a été avec Bourgeois à une époque, avec Germain quand lui, c'était en fin de carrière. En fait, ça a toujours été serré, ces courses-là. Et c'est ça qui donne ce plus parce que il y a beaucoup plus de pression qu'un championnat, en fait. Un championnat du monde, bien sûr, c'est super dur physiquement, ça n'a rien à voir, mais on ne va pas chercher le petit truc comme là. Là, c'est vraiment, on va chercher la petite seconde à gagner ou la spéciale qui a évolué à un endroit qu'on n'a pas vu parce qu'on n'y passe qu'une fois, avoir le petit plus par rapport aux autres. Et c'est toujours ça. Et on y passe, ouais, voilà, comme je dis, là, c'est un circuit où on passe qu'une fois par jour, une fois par week-end même. Et c'est ça qui donne ce charme et qui m'a toujours plu depuis mes débuts en enduro, en fait. Pourtant, pour un crossman, c'est la partie la plus difficile. D'arriver du cross et d'arriver en enduro et de rouler qu'une fois. C'est ça qui est le plus dur et moi ça m'a toujours plu et c'est là où j'ai été quasiment le plus à l'aise, étonnamment.
On a pas mal de pilotes amateurs, hein. Il y en a quelques-uns qui commentent. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions. Tu pourrais donner quel conseil, toi, à un pilote amateur qui est milieu de peloton et qui a envie de progresser un petit peu, tu sais, sur le résultat de l'année d'après ou sur le résultat de la prochaine classique. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a un niveau moyen, on va dire, juste le repérage, aller s'entraîner et travailler ses spéciales? Ça serait quoi si tu avais un conseil à donner, ça serait quoi?
Je dirais, bah déjà, suivant la météo, d'avoir un petit numéro, parce que s'il pleut, comme souvent il pleut sur les classiques, c'est important d'avoir un numéro assez petit, donc ça pour la progression, c'est quand même important. Ensuite, au niveau des réglages moto, pour des motos assez souples, surtout en suspension, c'est des spéciales qui sont en général plates, donc il faut pas chercher à avoir des trucs raides, type écrosse, tout ça. Et voilà, et des motos aussi qui soient souples. Parce que souvent, on manque de traction. C'est des courses vraiment où il faut beaucoup de traction. Donc, il faut des pneus qui soient bons. Et voilà, pour évoluer, je dirais ça. Le repérage, bien sûr, mais souvent, ceux qui sont milieu de paquet ont un peu de mal à repérer. on ne va pas les faire venir une semaine avant. Donc, ils essaient de passer vite fait les spéciales en long et en large, mais c'est ça qui fait la différence, quoi. Ceux qui arrivent à les faire deux fois, par exemple, certaines spéciales, ils verront de suite une différence entre ceux qui les ont fait qu'une fois en courant, quoi. Ça, c'est sûr et certain.
On a justement une question de Philippe sur YouTube qui nous demande, y a-t-il une technique pour mémoriser les spéciales? On mémorise juste les passages clés ou c'est tout? Alors toi, tu es vraiment le spécialiste parce que tu as vécu en fait l'effet inverse. Quand tu es arrivé en enduro, tu t'es fait latter un petit peu les premiers jours à chaque fois et c'était à cause du repérage. Du coup, tu t'es dit, bon, mais là, maintenant, je vais devenir le spécialiste du repérage. Et est-ce que tu peux donner quelques conseils gratuits ce soir?
Le repérage, c'est hyper important. Moi, quand je suis arrivé en enduro, je ne pensais pas qu'on pouvait retenir des spéciales entières. Je me suis dit, c'est impossible, 7-8 km, c'est impossible à retenir. Et en fait, au fur et à mesure qu'on les fait, il faut les faire au moins 3 fois. Quoi. Quand il y a des spéciales, comme on a eu à la grappe, certaines qui faisaient 8 km, pour la faire 3 fois, il faut vraiment du temps. À chaque fois, c'est 2h30 de repérage, 3h. Donc voilà. Mais après, il existe soit on peut filmer, ce n'est pas autorisé tout le temps, mais je sais que certains pilotes le font. Moi, je l'ai rarement fait, mais je sais que certaines le font. Ça peut être un plus, mais ça sera jamais comme quand on va la marcher. Et c'est toujours important de la faire plus à pied qu'en vélo, parce qu'en vélo, on passe vite, hein, et on retient pas vraiment, quoi. À pied, on peut vraiment s'arrêter, se voir les petits trucs sur les bords, se faire des repères, alors quand on passe en vélo, on croit qu'on retient, mais en fait, c'est comme en moto, on passe, mais on voit pas les petites traces qu'il y a sur les bords. Donc, c'est important de les faire à pied. Le mieux, c'est de les faire plusieurs fois. Il n'y a pas de secret. Mais quand on n'a vraiment pas le choix, c'est vrai que de filmer, c'est pas mal.
Je relève juste une autre question, du coup, de Mamart, qui dit que lui, il a trouvé ça... Et juste avant, il dit que c'était la première fois pour lui. Il a trouvé ça moins dur que la rando Auvergne. Est-ce qu'un pilote comme toi ne s'emmerde pas sur ce genre d'épreuve qu'il considère comme facile?
Alors oui, c'est sûr qu'on sait qu'il y a différentes classiques... Il y en a qui sont plus durs que d'autres. La rando Auvergne, c'est la plus dure, avec une partie typée championnat de France, voire plus, voire typée mondiale au début. On a à peu près 2 heures de moto technique, donc usante. Et même la journée, c'est quand même assez usant. Oui, en général, la rando, c'est la classique la plus difficile. Par contre, la grappe, c'est beaucoup de kilomètres. Là, on a fait quand même 450 bornes, je crois, en plus, et plus les spéciales. Donc beaucoup de kilomètres, et c'est surtout la météo. C'est souvent des courses où il pleut. Moi, en 6 ans, c'est la première fois que je la fais entière sur le sec, quoi. Donc, quand on se passe 200 bornes, 250 bornes sous l'eau, ça complique quand même les choses. Donc, voilà, c'est mes niveaux dénivelés. Déjà, il y en a beaucoup moins où on était, à la Grappe ou à la Val-de-Lorraine par rapport à la rando Auvergne. Mais c'est ça, il y a le charme, en fait. Il y a 5 classiques et les 5 sont vraiment différentes. Et on a une Val-de-Lorraine où c'est 12 spéciales différentes, donc c'est des spéciales enchaînées avec un circuit très court aux alentours de 150-160 km par jour, alors que là on en a 250 à la grappe par jour, ça n'a rien à voir, quoi. Donc c'est vraiment des courses différentes avec des sols différents, des organisations différentes, et c'est ça qui est plaisant. Là on va aller au trèfle. Au trèfle, c'est la plus grosse course, hein, avec 3 décors différents en 3 jours. Voilà, une grosse notoriété, toujours des très bons pilotes. Voilà, on va découvrir encore autre chose, de l'altitude, des spéciales à 1500 mètres, un sol souple, puis le lendemain un sol très dur avec des cailloux. Donc voilà, c'est chaque course a son charme, et certains préfèrent des courses plus faciles comme à la grappe, et d'autres préfèrent des courses plus techniques comme à la rando Auvergne. Il en faut pour tout le monde, et la Véronèse aussi est quand même très intéressante, avec souvent 3 décors différents. Bon, c'est vrai qu'avec la météo actuelle, et c'est vrai que l'été il fait très très chaud depuis quelques années, elle est de plus en plus difficile à organiser au mois d'août. Il y a des risques aussi, entre les incendies, la canicule, mais c'est une très belle classique aussi. Ouais.
Justement, tant qu'on est sur les classiques, on a la question à chaque fois qu'on t'a dans nos lives. Didi sur Twitch qui nous demande si tu as une classique à conseiller, ça serait laquelle?
Si je dis ça, je vais me fâcher avec les autres organisateurs. Ouais, c'est ça, alors que je les connais tous et on s'entend super bien.
Il me semble que tu avais dit la dernière fois, bon, la réponse est la même parce qu'elles sont toutes belles et toutes différentes, mais tu avais dit, voilà, c'est à côté de la maison, la Véronèse, quoi.
Oui, la Véronèse, parce que c'est à côté de chez moi, et je roule très souvent en Aveyron. Mais celle qui me tient le plus à cœur à chaque fois, et pour moi qui est la plus importante, en plus j'ai une partie, enfin, ma belle famille qui est de là-bas, c'est la Lozère, quand même. C'est le trèfle lausanne, j'adore la région, Je dirais, ouais, quand même, le trèfle, pour moi, c'est la plus belle, la plus grosse et la plus importante aussi. C'est ça qui fait ce charme-là.
On a une autre question du coup il demande si c'est Hoffman Hoffman, il n'y a pas de prénom, il n'y a que deux noms de famille. Si le motocross te manque pas trop à les courses parce qu'il te regardait à la belle époque.
Alors, le plus de rouler avec la Honda, c'est que cette année, j'ai pu avoir une moto de cross et j'ai pu rouler un petit peu avec les pilotes du coin, ben, que vous connaissez, avec Alvin, Combier. Ça m'a fait longtemps que je n'avais pas roulé avec. Cet hiver, j'y suis allé un peu plus. Il y avait Brice, Méline aussi, qui était là, des mecs qui roulent quand même fort en ce moment en élite. Donc, ça m'a fait du bien d'aller avec eux. Et c'est vrai que oui, ça m'a manqué l'an dernier. Donc, j'ai voulu faire le Kenny Festival comme à la grande époque, mais avec une moto d'enduro. Et ça s'est pas très bien terminé, même si ma vitesse était correcte avec une moto d'enduro. Donc, c'est pour ça que cette année, je me suis dit, on va prendre une moto de cross déjà pour éviter un peu les risques. Et c'est vrai que déjà, bah, une Honda, forcément, c'est une moto de cross endurisée. Donc, c'est plus facile à faire des entraînements. Et j'ai pu faire plus de cross cet hiver que ce que j'ai fait, on va dire, les années précédentes ou même quand je roulais sur la Sherco.
Justement, puisqu'on parle de la moto, on va poser la même question à nos trois invités ce soir. Vous roulez tous les trois avec des japonaises. Pourquoi on en voit si peu de japonaises en enduro?
Ben parce qu'à la base, c'est des motos de cross qui étaient vraiment typées cross. Et sur un enduro, un vrai enduro, c'est difficile à choper de la traction, avoir une moto qui cale pas, voilà, il faut quand même bien l'enduriser. Mais maintenant, on voit des pilotes comme Garcia qui n'utilisent plus du tout les motos d'enduro. C'est des motos de cross quasiment à 100%. Donc, on est en train d'y revenir au final. Et nous, on voit la différence cette année. Alors, certes, il y a certains endroits où il faut faire attention, mais ça cale un petit peu plus. Mais par contre, ça a une force moteur et des châssis, surtout les japonaises, qui sont très très bons. Donc, on gagne un endroit, on perd un autre. Une KT, voilà, ils font des motos vraiment enduro, qui sont très fiables parce qu'elles sont un petit peu bridées et elles tiennent très longtemps, alors que des motos, des Kawa ou des Honda sont vraiment très fortes. Et voilà, ça ressemble plus à des motos de cross. Donc c'est ça qui fait la différence. Je sais pas quelle serait la mieux comme ça, mais on retrouve un plaisir différent de rouler sur une japonaise par rapport à une
Après, ça
autrichienne.
reste vraiment différent du moto de cross. Tu disais qu'en cross, tu préférais quand même rouler avec une CRF, quoi.
Un cross, ouais, un cross, c'est sûr qu'un cadre alu, il n'y a pas photo. Maintenant, la KT, elle est très très bien aussi en cross. Hein.
Non, je veux dire, non, mais ce que je voulais dire, c'est la CRF par rapport à la CRF RX, par exemple. Tu
Ah
vois,
oui.
il y a quand même une différence. Tu sens vraiment la
Ouais.
différence entre une moto de cross et une moto d'enduro?
Sur la Honda?
Ouais, sur Honda.
Non, sur la Honda, honnêtement, il y a rien. Ma moto, c'est une moto de cross. Hein. C'est une
D'accord.
moto de cross où on y a mis un embrayage hydraulique parce que c'est vrai sur la 2,5, il n'y a pas de direct. On a décomprimé un peu, on peut mettre une masse un petit peu à l'allumage, certains trucs, mais après, j'ai la base est cross complète. La moto, c'est une moto de cross. Hein.
D'accord. Et du coup, par rapport au niveau, tu conseillerais quoi? En gros, un pilote amateur, plutôt une moto vraiment faite pour l'enduro, et un pilote qui commence à avoir du niveau, basculer sur une japonaise, où il n'y a pas de logique?
Alors, un châssis, il n'y a pas photo, hein. Le mec qui va prendre la Honda, il va de suite aimer. C'est une moto beaucoup plus compacte. Hein. Mais après, voilà, c'est un cadre alu. Donc, quand on prend des pierriers et tout ça bouge un peu plus. On va dire que c'est une moto un peu plus faite pour la compétition, pour l'instant. Et justement, on y bosse dessus parce qu'on essaye de l'endurer au maximum. Les séries S sont sorties. C'est des motos qu'on a quand même un peu développées depuis le début de la saison, pour les calmer un petit peu et pour qu'elles soient justement qu'elles plaisent plus à l'amateur pour fonctionner correctement, quoi. Que ça soit pas juste je veux dire que l'amateur ne prenne pas comme il le prend depuis un petit moment juste des KTM ou des autrichiennes, voilà, pour faire de l'enduro. On va essayer de se rapprocher d'eux, mais pour ça il faut qu'on continue à enduriser la Honda, qui est une moto qui est quand même très fiable, même si nous on a eu quelques petits problèmes, mais c'était des bêtises, parce qu'on ne connaît pas encore bien la moto. Mais sinon, c'est des motos qui sont très solides. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de boulot à faire pour l'enduriser encore. On y est dessus, ça progresse, la série S est sortie, et je pense qu'elle va plaire. Et et on va continuer à la faire évoluer.
On a, pour ta retraite, on a des suggestions encore. Attends, je l'ai vu passer. Ah, voilà. Pour 2025, tu vois. Alex qui demande, est-ce qu'on te verra sur l'Armor Weekend TT en 2025? Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les 24 heures de Bretagne, c'est ça?
C'est ça, alors là, exactement.
Ouais, c'est les 24 heures de Bretagne, en fait. C'est une course en équipe.
Ça me dit quelque chose, mais...
Où il y a du gros niveau à chaque fois. Il y a Soub, il y avait Borramé.
Il y a des gars comme ça qui roulent. Pilotes, ouais.
En Bretagne, il faut y aller du 15 juillet au 15 août, donc j'espère que la course est à cette période, non ?
Mais elle est en août.
C'était août et il y avait quand même pas mal de poussière.
Non, mais je rigole, en Italie une fois, enfin, en France, il n'y a pas longtemps, il y avait beaucoup, beaucoup de poussière. Ouais. Mais pourquoi pas, il faut voir, il faut discuter. J'ai mon ami Léo Lequeré qui est sur place là-haut, donc pourquoi pas faire une petite course. Ouais.
Ben voilà, il faut, Alex. Il faut en reparler à l'approche de 2025 et on va avoir une équipe de choc qui va revenir avec la coupe à la maison.
Parce que et pourquoi 2025 cette année
Pyrénées, Occitanie, c'est ce qu'on fait.
Oui, c'est 2024. D'ailleurs, c'est compliqué ou quoi 2024.
Il n'y a pas de 2024. Il n'y a pas d'épreuve en 2024.
Ah d'accord, okay.
C'est 2025 la prochaine. Bon, très bien. Bon, ben, on a notre deuxième invité qui est dans la salle d'attente. Alors, on va vous chevaucher, on va faire un
truc. On s'est vu tout le week-end.
Tu m'étonnes. Et Jérémy, un petit conseil, ou du moins, qu'est-ce qu'il fallait pour battre Jérémy Taroux le deuxième jour? Parce que Kylian a gagné quand même le premier jour à la grappe. Du coup, il fallait quoi, Jérémy? Qu'est-ce que tu as fait de plus pour aller le chercher?
Oh, ça ne s'est pas joué à grand-chose. C'est à la seconde de près, presque. Non, mais ça, voilà, c'est que oui, il y a eu quelques petites erreurs, faut pas faire d'erreurs. Bon, après, je crois qu'on n'a pas fait de chute, aucun de nous tous, mais c'est vrai que ça se joue à rien. Et même sur une longue spéciale de 8 km, je crois qu'on s'est séparé d'une seconde et demie. Non, ça a été des petits détails qui ont été à ma faveur là sur cette fois-ci, mais en la sienne le premier jour. Donc voilà, on verra au trèfle, parce qu'au trèfle, il est très fort, c'est chez lui. Alors, il va falloir être costaud.
Bon, parfait, merci beaucoup.
On va dehors le retraité. On enchaîne avec toi.
Ben, bonsoir déjà. Bonsoir tout le monde.
Salut, Kylian. Il est poli. Tiens, on voulait voir, on voulait vous faire friter un petit peu, mais bon, ça marche pas. Vous êtes trop cool, les
fans. Comme il a dit, on s'est vu déjà tout le week-end, vu qu'il suivait Hugo. Je l'ai croisé un peu dans les spéciales.
Non, je connais bien cool. Kylian. C'est un très beau pilote. Un futur très bon de classique. Je pense qu'il va. Il va en gagner un petit paquet. Ouais. Il y a encore un petit peu de boulot quand même les seconds jours et sur les spéciales tracées, mais
ouais.
on peut tout avoir.
C'est sûr. Venir.
Il va vous l'expliquer.
Exactement.
Bon, ben cool. Ben, merci Jérémy. On te laisse à mettre les enfants au lit et à très bientôt sur les spéciales, sur les terrains de cross peut-être.
De toute façon, Kenny Festival, sûrement vous allez y être.
Ouais, certainement. Oui.
Et puis voilà, merci pour l'invite et allez, face aux jeunes.
Bonne soirée, Jérémy. Salut.
Bonne soirée, Jérémy.
À plus.
Kylian Lunier, comment ça va? Beau début de saison, ça fait plaisir. La grappe, premier jour exceptionnel. Si on peut, on va commencer par parler de la grappe. C'était il y a 10 jours. Premier jour exceptionnel sur les terres de DSN Moto. En plus, je pense que ça devait avoir le sourire quoi, dans le team.
Ouais, c'est clair. C'était une belle course. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et pour cette année-là, on a eu des belles spéciales assez longues, donc c'était cool. Et ouais, content de revenir sur les classiques avec une victoire le premier jour. Je suis content aussi de faire monter la carreau un peu sur le podium, ça fait du bien. Donc pour ça, c'était top. Après, comme il a dit, un peu le dimanche, un peu en dessous. Bon, j'ai réussi à les tenir un peu, être assez proche, mais pas jusqu'à gagner. Donc, ce qui m'a manqué un peu, je pense, un peu d'expérience dans les traces à vue, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, après, c'était une bonne course. J'ai pris beaucoup de plaisir et content quand même du résultat, même s'il manquait pas grand-chose.
C'était même pas, selon toi, c'était pas du tout physique ou quoi. C'était vraiment, ça s'est joué à l'expérience au final.
Ouais, non, après, comme il disait, j'ai écouté un peu le live. C'est vrai que les classiques, on a quand même pas mal de temps. On n'a que 4 ou 5 chronos par jour, donc c'est assez cool, c'est pas hyper intensif. Après, le but, c'est d'arriver à faire le meilleur chrono d'entrée. Donc pour ça, moi, j'arrive bien quand c'est vierge, parce que j'ai mes traces et je sais où je vais. Mais c'est vrai que le dimanche, quand quand ça a roulé devant, eh bien, je ne sais pas trop encore où mettre les roues. J'essaye des fois de faire la trace ou de recouper. C'est pas encore instinctif, quoi.
Tu penses que ça se bosse comment, ça, justement? Ça se bosse en cross ou ça se bosse en spécial, on va dire, avec beaucoup de monde qui roule toute la journée? Tu le verrais comment?
Bah ouais, il faut faire vachement de cross, c'est ce qui me manque encore un peu aujourd'hui, je pense, même si je le travaille encore à l'entraînement parce que j'ai pas un gros bagage en cross. Moi, j'ai fait l'enduro kid quand j'étais plus jeune, donc j'ai pas peut-être pas le même bagage que certains. Mais sinon, après, c'est aussi à l'expérience, savoir si dans la trace, si c'est là où il faut aller, ou plutôt faire des recoupes, faut être super intelligent, quoi.
La Kawa, t'en penses quoi, toi, de cette moto? On sait que Kawa s'est investi il n'y a pas beaucoup, beaucoup de
Ouais.
temps au final en enduro. Ça donne quoi?
Eh ben, c'est une bonne moto, je suis quand même content. Ben, je vais vite avec, donc c'est
Ah,
qu'elle
c'est
va
la bonne
bien.
note.
Mais ouais, ça fait pas longtemps qu'ils s'y sont remis. Avant, on avait des bons pilotes qui roulaient avec, comme Gauthier, Deparois. C'était une moto qui marchait bien dans les années 2010-2012, je crois. Donc elle a quand même un bon passé. Et depuis 3-4 ans, ils se sont relancés un peu à les refaire endurisés. Donc c'est une moto de cross, donc on a travaillé un peu dessus pour essayer de l'enduriser au mieux. Mais il y a quand même encore un peu de boulot, surtout pour les extrêmes. C'est pas encore une moto faite pour faire des longues balades ou de l'extrême, parce qu'on n'a qu'une boîte 5. Donc ça va pour faire de la compétition et des courses, mais il y a encore un peu de boulot dessus, quoi.
Tu roules, hein, tu t'es entraîné en extrême dans ta préparation?
Ouais, parce que moi du coup je fais l'Europe à côté. Donc là, je suis en tête du championnat en junior pour l'instant. Et donc, l'Europe, c'est un peu comme le mondial, un peu plus petit. Donc, on a une spéciale extrême, une ligne et une spéciale cross. Donc, il faut être polyvalent dans les trois. Donc, j'ai fait pas mal d'extrêmes quand même cet hiver chez moi, en Lozère, dans mes chemins pour m'entraîner. Et
C'est
toi,
vrai
t'en
que
as.
quand on voit les spéciales extrêmes sur l'Europe et le mondial, ouais, c'est du vrai extrême quand même. Enfin, toi, tu
Ouais.
connais, hein, je pense que tu connais un petit peu du côté d'Alès aussi, et
C'est
c'est ce qu'on
ça.
retrouve en fait sur des courses extrêmes.
Exactement. Ouais, elles sont plus courtes. Nous, les spéciales extrêmes, normalement, à l'Europe ou au mondial, ça fait entre 2 minutes et 4 minutes max. C'est des spéciales plus courtes parce qu'elles sont plus dures, plus intensives. Mais on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi.
Ouais, il y a quand même des écarts qui se creusent finalement. C'est pas des
Ouais,
spéciales
vachement.
de 10 minutes, mais bon, il y a gros à perdre souvent, je
C'est
pense.
ça. Bah, elles sont beaucoup plus sélectives, donc on a vite fait de caler, de ne pas réussir à monter un obstacle ou autre, donc ça fait vite de l'écart.
Quand on a un programme comme le tien, avec France, Europe, comment tu fais pour concilier la vie de crossman et la vie boulot, on va dire? Est-ce que tu arrives à travailler à côté ou tu as consacré l'année à la moto?
Eh bien, justement, moi, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je travaille. Donc, j'ai toujours travaillé à côté pour me payer les saisons, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et ça fait que depuis cette année, du coup, de cet hiver où j'ai arrêté de travailler, j'ai fait encore un tout petit peu d'intérim, mais très léger pour justement essayer d'être encore plus performant. Parce que c'est très compliqué de faire 40 heures de boulot la semaine, aller à la course le week-end. Dès qu'on rentre, on revient au boulot. C'était très dur. Et j'ai mal vécu ces dernières années, parce que en montant en niveau, à chaque fois, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué de récupérer et d'être performant les week-ends. Donc j'ai décidé de faire un peu l'impasse sur ça, et d'ici un an ou deux, j'espère que ça marchera pour continuer à rouler.
Là,
Du coup,
aujourd'hui, tu roules sur une 2,5, c'est ça? 2,5-4
c'est
temps?
ça, ouais.
C'est quoi la moto la plus performante, tu penses? Quelle cylindrée? Que ce soit 2 temps, 4 temps, tu penses que la 2,5, c'est la moto qui performe le mieux en enduro? Alors, vous vous en foutez au final parce
Ça
qu'il n'y a pas de
dépend.
scratch au championnat de France, mais est-ce
Ouais.
que, voilà, si on veut performer vraiment au top du top, c'est quoi?
Bah, ça dépend le type de course qu'on fait. Pour un championnat du monde, ce sera plus un 300 de temps, je pense. Donc les bêtas, elles vont vraiment bien, par exemple. Après, si on fait des prairies, un 2,5, 4 temps, c'est le top. Sur des classiques, ça va bien. Là, la Kawa, j'en suis vraiment content. Donc je pense que la Honda, c'est un peu pareil. On a roulé un peu cet hiver avec Jérémy, et c'est vrai que c'est des motos qui sont vraiment proches. Donc je pense que c'est des très bonnes motos pour les classiques. Et après le France, ben, ça varie. Ce week-end, on avait plus typé mondial. Dans 3 semaines, on aura plus peut-être typé classique, donc ça varie.
Et toi, comment tu prépares justement l'hiver, ces championnats-là? Est-ce que tu t'entraînes, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'entraînes un peu moins en cross, mais
Ouais.
est-ce que tu fais beaucoup de franchissements? Est-ce que tu t'infliges un gros programme physique pour préparer la saison? Explique-nous un petit peu comment tu as appréhendé cette saison 2024.
Eh ben, moi, ces dernières années, du coup, vu que je pouvais pas trop rouler, je roulais une à deux fois par semaine avec le boulot. Je faisais beaucoup de physique, donc tous les soirs après le boulot ou le matin avant d'aller travailler. Et du coup, cet hiver, vu que j'ai eu plus de temps, j'ai pu rouler davantage, donc 3 à 4 fois par semaine. Et surtout rouler intelligemment, pas aller rouler bêtement, faire des tours et rentrer, quoi. C'est faire des séances complètes avec quelques chronos, quelques manches, travailler sur des points que j'ai envie d'améliorer. Voilà, plein de choses comme ça, que ce soit en extrême, dans des lignes, dans des bois ou rouler en crosse un peu partout, quoi.
Et du coup, avec un entraîneur ou seul? Parce qu'on voit, moi je suis plus sur la partie cross. Sur la partie cross, on voit que quand on a un pilote qui va dans un team, comme par exemple le team de Valentin Tellier, etc., on a quand même le team manager qui va un peu prendre le pilote sous son aile et l'entraîner. Est-ce que toi c'est le cas? Tu as quand même quelqu'un qui vient t'aider ou pas?
Plus maintenant. Avant, j'avais, oui, j'étais parti en sport-études de mes 14 à mes 16 ans à Nantes. Donc, j'étais parti là-bas 2 ans. Du coup, on s'entraînait tout le temps avec le même entraîneur. En quittant du coup le sport-études, c'est Romain Boucardet qui m'avait aidé pendant 2-3 ans. Donc, à m'entraîner pratiquement toutes les semaines, on s'entraînait ensemble. Donc, c'était top. Et là, depuis peu, j'essaie de rouler en fait avec d'autres pilotes. Donc, j'ai pas un entraîneur fixe, mais j'essaie de rouler à droite à gauche avec des pilotes élites, des pilotes juniors, un peu tout le monde pour être assez complet, quoi. Ça nous tire des pilotes qui sont peut-être un peu moins rapides, mais du coup on se pousse à aller plus vite, ou alors des pilotes qui sont bien plus vite et ça nous tire pour progresser.
Est-ce que ce changement de marque et de team, ça a imposé d'autres changements pour toi? Est-ce que tu as dû déménager? Est-ce que, voilà, comme tu viens d'en parler, est-ce que tu as roulé avec des pilotes différents, des pilotes du team peut-être? Comment ça s'est passé?
Ouais, bah du coup, là dans mon team, je roule souvent avec Mathis Julliard. Donc, c'est un pilote que je connais depuis longtemps parce qu'on roulait en Enduro-Kid d'avant. Donc, c'est un bon copain. Donc, on a eu la chance cet hiver de rouler pas mal ensemble. Je suis descendu aussi vachement vers Perpignan, rouler avec Maxime Orteveille. Je sais pas si vous connaissez. Donc, il y a un bon pilote en cross qui devait faire le championnat de France cette année, mais qui s'est blessé il y a pas longtemps. Et après, sinon, du coup, j'ai pas déménagé, je reste sur Mende. Donc, j'ai roulé aussi avec des gens de Mende, un peu encore avec Romain Boucardet, qui fait quelques stages. Et voilà.
Ouais, si je continue juste sur la partie préparation,
Ouais.
je trouve souvent que l'enduro, tu sais, c'est le sport le plus complet, on va dire, où il y a le spectre le plus large, parce qu'il faut être bon, limite en trial quand on va faire de l'extrême, en cross quand on va faire des spéciales un peu défoncées, et en enduro pour les liaisons et tout le reste. Et du coup, est-ce que tu arrives, toi, à t'entraîner sur ces trois disciplines, notamment en trial, par exemple?
Triage, j'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien essayer un jour. Mais c'est vrai que ça peut aider, surtout dans des extrêmes vraiment compliqués, pouvoir avoir un bon jeu de jambes, être à l'aise, équilibré et tout. Après, moi, j'essaie, comme je disais, de rouler un peu en crosse si je peux pour travailler la vitesse dans les trous, par exemple, ou après dans des lignes défoncées. Enfin, ça dépend. Mais c'est vrai que c'est un sport qui est bien complet parce qu'on a des journées longues de 7 à 8 heures de moto. Et dans cette journée-là, on a des chronos intensifs qui vont de 2 à 12-13 minutes où on est à 100%, donc vraiment, vraiment très intensif. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à se donner pendant 10 minutes et après, pendant toute la journée, quoi, 8 heures, être endurant sans craquer jusqu'à la fin, quoi.
Moi, je suis sûr que je suis prêt à lancer les paris que si l'enduro se professionnalise, on va dire sur le mondial, s'il y a de plus en plus d'argent, on va voir un petit peu comme en MMA. Je sais pas si vous suivez le MMA. En MMA,
Un
on
petit
a
peu, ouais.
des gars qui vont s'entraîner avec des spécialistes du grappling au sol, d'autres qui vont s'entraîner avec des spécialistes de la boxe thaï. Et j'ai l'impression qu'en enduro, à force, d'ici 10 ans, 15 ans, ça sera ça pour essayer de grappiller les dixièmes. Il y en a qui vont s'entraîner avec des spécialistes du trial pour s'améliorer là, dans le cross. Et en fait, pour essayer de concilier tout le meilleur des trois disciplines et le mettre en enduro. Est-ce que tu es d'accord?
C'est vrai, ça, depuis longtemps déjà, certains pilotes le font. Comme Romain Boucardet, par exemple, il s'entraînait beaucoup avec Bonal en cross l'hiver, donc pour passer un cap dans les trous. Je sais qu'il y en a qui s'entraînent avec des trialistes, donc c'est déjà le cas pour certains, c'est vrai.
Une question, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre, moi je serais incapable en tout cas. Tu veux te connaître le poids de ta kawa sans plein?
Alors, je ne sais pas.
L'évaluation surprise, là, tu sais.
Voilà, il faut regarder. Tape sur Google. La kawa. Bon, après, la tienne, peut-être elle est un peu plus légère où il y a des pièces qui diffèrent de l'origine.
On n'a pas grand-chose en pièces. Tu vois, on a... Pour la léger, non, pas grand-chose. Un peu peut-être plus lourd vu qu'il y a la plaque phare et les éléments d'homologation, quoi. Mais c'est tout, quoi.
J'ai une question, moi. Sur le championnat de France, tu regardes le scratch? Alors, il n'y en a pas de scratch, on le sait, hein, officiel, mais officieusement, on sait que tous les pilotes, ou du moins, on peut le trouver assez facilement, ce scratch officieux. Tu le regardes, ça?
Bien sûr, c'est vrai que ça serait bien que ça soit mis en place, parce que sur tous les autres championnats à l'étranger, on le voit, et ça peut que nous pousser vers le haut, quoi. Donc, parce que des fois, dans des catégories, on peut être largement devant et pas aller chercher plus loin, alors que si on compare au scratch, eh ben, on n'est pas forcément devant au scratch, quoi. Donc, ça serait bien que ça se mette en place. Je pense que ça tirerait tout le monde vers le haut.
Vous l'avez-vous aussi? Le fait d'avoir séparé toutes les catégories, de plus du tout parler de scratch, ça a apporté de l'argent, ça a apporté de l'aide aux pilotes?
Je ne pense pas forcément, non. Après, c'est bien qu'il y ait des catégories pour les titres ou les fins d'année. Mais c'est vrai que qu'il y ait un résultat au scratch, c'est bien aussi, je pense.
Moi qui suis pur crossman, je suis un peu moins l'enduro. Désolé pour les enduristes et les purs enduristes qui nous écoutent. Mais il y a le Challenge Team National 2024, je vois, avec les équipes et les. Les équipes. Hein. Est-ce que ça, c'est mis en valeur le jour des France ou pas? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment pour les marques, pour les mettre en avant et pour qu'ils s'investissent un peu plus. Et est-ce que du coup, il y a un retour et c'est mis en valeur le jour des épreuves?
Moi, personnellement, je n'ai jamais fait partie de cette catégorie-là, du coup, avec mes teams, parce qu'on n'était pas assez pour... Parce qu'il faut être, je crois, 3 ou 4 pilotes représentants. Et à chaque fois, moi, on n'était que deux max, quoi. Donc, je n'ai jamais pu regarder ces résultats-là.
Ok. Du coup, tu penses que ça a de l'importance pour une équipe?
Peut-être, je pense qu'après c'est toujours bénéfique de voir ces couleurs sur un podium, ça peut que faire du bien, je pense.
Je trouve le principe intéressant, mais après si ça va au bout, quoi, c'est ça.
C'est vrai, oui. Après, je pense que c'est intéressant pour les équipes, parce qu'on voit à quel point quand même pour les teams c'est compliqué aujourd'hui. On part loin de chez nous à chaque fois, c'est des déplacements, ça coûte de l'argent. Donc, les mettre un peu en valeur, je pense que c'est une bonne chose.
On se fait déboîter de questions en commentaire, on va les relever. On a Robin qui nous demande, qui veut savoir ce que tu as pensé de la grappe.
Surprise cette année, c'était vraiment une belle année, j'ai trouvé, parce que les spéciales étaient magnifiques, longues. Parce qu'il y a eu des années, il y a 2 ans, je l'avais faite à la sortie du Covid, ça avait été compliqué pour l'organisation d'organiser, et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de chronos. Là, cette année, sur 8 chronos, on a eu pratiquement 50 minutes. Donc, c'est super pour nous en tant que pilote. On a pu vraiment se départager. Donc, c'était top. Même les chemins et tout, c'était super. Vraiment une belle classique.
Allez, pareil, on a quasiment la même question. Je pense qu'on en a plusieurs fois tout à l'heure. C'est pour ça que je relève. Qu'as-tu pensé du tracé en liaison de Rocroi et peut-être même sur cette première épreuve du championnat de France de manière générale? Qu'en as-tu pensé?
Surpris. Je m'attendais pas à ce que les bourbiers soient aussi longs. Parce que là, franchement,
ça avait l'air costaud.
Sacré bourbier. J'avais jamais vu des bourbiers aussi longs. Franchement, les deux pieds sortis pendant 200, 300, 400 mètres, c'était impressionnant les liaisons. Mais bravo en tout cas à l'organisation, parce que là, pour remettre en état les chemins, ça va être compliqué.
Il y a du boulot derrière.
Là, il y a du boulot. Même sur les routes, parce qu'on croisait des fois des routes, avec la boue qu'on emmenait sur la route, franchement, je les voyais, les bénévoles avec des râteaux, à pousser la terre pour que les voitures passent, chapeau, hein, sous la pluie et tout, chapeau. Chapeau les bénévoles.
Bon,
Il y a un
on a pas
sujet
mal de
encore depuis le
pilotes.
début, c'est le pognon. Ralitété qui nous demande, est-ce que tu peux nous dire une fourchette de salaire de prime pour comparer au motocross? Alors, je ne sais pas si tu pourras comparer au motocross, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les top enduristes et les top crossmen qu'on retrouve en championnat de France élite, par exemple, ont le même niveau de salaire?
Non, clairement non. On le sait. Hein. Là, au championnat de France, déjà au championnat, on ne gagne rien. Donc, si on n'a pas des primes à côté avec les teams ou les partenaires, on gagne zéro. Alors qu'en cross, le championnat apporte de l'argent, il me semble. Donc, déjà, pour ce point-là, c'est différent. Même en régional, je crois. Hein. Si on gagne en ligue, en cross, on a des primes. Donc, pour ça, déjà, c'est non. Après, ça dépend du team, la structure. Ça varie, il y a des pilotes qui peuvent gagner correctement, mais il n'y en a pas beaucoup en enduro. Ça devient de plus en plus compliqué.
On a Enzo qui te demande tout à l'heure, on avait des astuces avec Jérémy
Ah ouais, on
Tarot.
prend des conseils gratuits. Là, ça y va.
Ouais.
Ça y va. Vu que le live est gratuit, ça demande du conseil. On voit
Avec
que le
plaisir.
public enduriste, dès que c'est gratuit, ils y vont.
Bah, ils ont raison.
Allez, du coup, quelques astuces pour s'améliorer en endurance tout terrain. Du foncier, du renfort. Alors là, j'imagine que c'est plus pour la partie physique.
Eh ben, il faut savoir que l'enduro, ben pour moi, ça suffit pas. Il faut faire beaucoup de physique à côté. C'est un sport qui est vachement complet, comme on a dit, donc il faut être endurant. Donc pour l'endurance, travailler sur le vélo, tout simplement, ou aller courir. Ça fait du bien faire du VTT une ou deux fois par semaine. C'est top, hein. Ça nous aérer un peu et ça travaille le physique. Et après, pour tout ce qui est cardio, moi je fais des circuits cardio. Ou alors, je fais du rythmé en course à pied, donc du 30, 30-40. C'est des séances qu'on peut trouver facilement sur Internet pour travailler un peu plus l'intensif, donc de la préparation. Et sinon, je fais pas mal de natation aussi. J'aime beaucoup parce que du coup, c'est pas un sport qui est violent pour les muscles. Ça me fait travailler la respiration, parce qu'en spécial, ça nous arrive qu'on ait des moments où on se contracte et on respire moins quand il y a des gros trous ou une montée un peu raide. Donc ça arrive souvent qu'on respire pas correctement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé sur la respiration. Et sinon, après, à côté, beaucoup de gainage aussi, abdos. C'est basique, mais ça sert énormément. Quand il y a une racine ou un trou qu'il faut contracter les muscles, ben, le gainage, il fait vachement pour rester sur la moto.
Allez, dernière question qu'on va relever, parce que je sens que c'est inquiet. On a eu la question plusieurs fois.
Ouais.
Ils veulent te récupérer hein, dans d'autres teams, mais tu as signé pour combien de temps chez DSN du coup?
Un an, là c'est un an de contrat.
Ok, un an pour faire ses
Ouais.
preuves, quoi.
C'est ça. Non, après le team est top, ils sont vraiment à l'écoute pour bosser du coup sur la demi parce que moi je suis un peu jeune, hein, j'ai que 23 ans et c'est vrai que j'ai pas non plus l'expérience qu'il faudrait pour mettre au point une moto. Et du mieux que je peux faire, il me l'accepte. Donc, on a pu bosser correctement, comme alourdir un peu l'allumage, faire des choses qui font fonctionner un peu la moto, plus facilement en enduro et qui la rendent plus efficace, quoi. Donc, content.
Ok, on va. Bon, on a notre invité qui est dans la salle d'attente. On va le faire rentrer aussi, comme ça on va te poser une question qui vient. Tout à l'heure, on l'avait posée à Jérémy, on va te la poser à toi
Ouais.
aussi. Salut, salut Hugo, on te fait rentrer et à
Salut.
froid direct une question pour Kylian. Kylian, qu'est-ce qu'il faut pour aller chercher Hugo Blanjou en catégorie E1 en championnat de France?
De la vitesse là ce week-end. Là,
Ok,
il allait
on est
sacrément
sur du
vite. Ouais,
bourbier ou
effectivement.
non? C'est la vitesse tout simplement, quoi.
Là, ouais, il a mis un gros rythme. Moi, j'ai quand même vachement levé le pied. C'était des spéciales qui étaient vachement contraignantes, vachement trouées et quand même assez dangereuses à des endroits. Et j'ai pas su prendre trop de risques. J'ai pas su aller taper au fond des ornières aussi vite, quoi.
Bon, mais cool. En tout cas, merci Kylian pour ton temps. C'est cool. On t'invite à rester si tu veux. On te met dans la salle d'attente et tu pourras écouter. Pareil, on va
Ça
demander des
marche.
conseils gratuits à Hugo. Donc,
Avec
ça fera peut-être servir pour aller
plaisir
chercher
en
les
tout cas.
secondes qui manquent.
Eh bien, merci à vous en tout cas et bonne soirée.
Merci
Bonne
Kylian.
soirée, Kylian. Salut. Allez, l'homme qui est revenu en rouge et qui performe bien à ce début de saison, autant bah, sur tous les championnats auxquels tu participes, Hugo. Comment ça va?
Mais écoute, super, ça peut que aller bien là, après un week-end pareil. La route était longue, je suis arrivé il y a moins de 2 heures là, de là-bas.
Ah ouais, vous êtes tous,
Un truc de
Jérémy,
malade
pareil.
l'enduro. Et t'es parti mercredi soir, je suppose. Mercredi. Là pour aller là-bas, pour aller sur l'épreuve.
J'étais à la grappe avant, donc je suis pas rentré. J'étais
Ah
chez mon
ouais.
mécanicien à Saint-Étienne.
Ok.
Et j'ai enchaîné dans la foulée. Donc là, ça faisait 2 semaines et demie que j'étais parti, donc ça fait du bien de rentrer, ouais.
Ah ouais, c'est vrai. Quand on dit que c'est des grosses semaines, c'est vraiment des
Et
grosses
oui.
semaines en enduro.
Et ouais, en plus, c'est classique, on part encore même 3 jours avant. On part le lundi, on attaque le lundi, donc ouais, ça fait des bonnes semaines. Ouais.
Ouais, quand on veut le faire, en fait, quand on veut gagner, tout simplement, t'es obligé de passer du temps. On peut pas tricher, quoi, en enduro, c'est impossible.
Quand on veut gagner, quand on veut suivre Jérémy Tarrou à la trace, alors oui, passe le moindre millième, ben ouais, il faut partir le lundi exactement.
Ça se joue, c'est comment on fait pour battre Jérémy Tarrouk sur une classique, justement, parce
Je
que
sais pas, je l'ai pas encore battu.
ouais, c'est ça qui est peut-être frustrant, parce que ça va venir. En plus, ça se joue à pas grand chose, comme il disait aussi bien. Des fois, c'est des petits détails, mais tu penses que c'est quoi qui t'a manqué sur la grappe? C'est plutôt le repérage, c'est plutôt de plus débrancher un spécial. C'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu analyses comme ça?
Un pignon de 14.
En plus, vous avez la même moto, donc tu peux
vous avez la même
savoir.
moto.
Non, ce qui manque, c'est un peu d'expérience. Un petit peu d'expérience, un petit peu de confiance. Parce que ce qui est dur dans ces classiques, c'est de rouler très vite et avec la peur, si je peux dire, de tomber, de faire une erreur parce que ça se joue vraiment à rien. Et on sait que sur des petits chronos comme ça, ben, la moindre petite erreur se paye cash. Et du coup, c'est plus ça, moi, aujourd'hui, qui me retient, c'est de rouler vite, je sais faire, mais de se dire de rouler vite et de tout en assurant à 100%, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est ce qui me manque aujourd'hui, plus bien sûr du pilotage et de la trajectoire classique, c'est ce qui me manque, mais ça va venir.
Ça se bosse comment ça? Parce que ça doit pas être évident de se dire je vais vite, mais par contre dès que je fais une erreur, je le paye cash. Tu vois,
La
c'est. Ouais.
confiance, et puis les textures, je pense qu'au fur et à mesure, c'est habitué. C'est pareil, Jérémy me disait, c'est 5 classiques, mais elles sont tellement différentes. On va à la Val de Lorraine, c'est un sol, c'est un bourbier du début à la fin. Le trèfle, c'est encore particulier, c'est des textures de sol tellement différentes. Et je pense que la confiance, elle vient au fur et à mesure des courses.
C'est pas le fait aussi de, tu vois, d'augmenter encore son niveau pour se permettre d'être à 90% et de
Bien
gagner
sûr.
à 90%.
Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est sûr aussi que s'entraîner à 110% pour être à 90% le jour de la course, ça aide aussi beaucoup, c'est sûr.
Après, c'est facile à dire, mais c'est pas
Ouais,
évident.
c'est facile à dire, mais c'est vrai, hein, c'est ça en vérité. Hein.
Toi, du coup, un peu la même question que la cliente tout à l'heure, tu t'es entraîné comment cet hiver? Est-ce que d'après toi, tu es à 100% là actuellement?
J'ai envie de te dire non, parce que ça a été un hiver qui a été un peu court. Moi, je me suis fracturé le talus donc en fin de saison passée. J'ai passé 4 mois sur le carreau, dont 2 mois, 2 mois dans le canapé. Donc j'ai rattaqué la moto fin janvier, début février. Et sur une nouvelle moto, une nouvelle machine, on a tout découvert. Du coup, l'hiver a été assez, assez court quand même. Donc on va dire que je pense que je roule beaucoup sur mes acquis pour l'instant. J'ai passé beaucoup de temps à m'adapter à la moto, au pilotage à 2,5. Ça commence à le faire là, mais je sens que ça vient par palier et ça se débloque. Je l'ai vu à la grappe il y a 2 semaines, là ce week-end encore. Et je pense que ça va encore progresser tout au long de l'année, c'est sûr.
On t'avait laissé le choix en cylindré ou c'était imposé?
Ouais, j'avais le choix. J'avais le choix. J'ai essayé. J'avais la 300 au début de l'hiver. Parce que c'était la moto qui était disponible, j'ai roulé avec pour reprendre, ça m'allait très bien. Mais après, au niveau choix stratégique par rapport aux différentes disciplines, qui sont les classiques, le cross-country et le championnat de France, j'ai décidé de prendre la 2,5, je me sentais bien dessus. Jérémy a beaucoup bossé dessus depuis le début décembre. Et on le sait, ben, ça passe super vite l'hiver. Du coup, j'ai dit, ben, on saisit l'opportunité, il a quand même bien avancé dessus. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité, j'ai pris la 250 et c'est aujourd'hui un choix que je ne regrette pas parce que je me régale. Là, tu vois, je prends de la confiance. Tout au long du week-end, Kylian disait, les spéciales étaient quand même assez chaudes, mais il n'y a aucun moment où je me suis mis en danger et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. C'est trop bon quand c'est comme ça.
Vous avez l'air assez libre dans vos choix techniques. Tu vois, Jérémy nous parlait tout à l'heure de ORD en suspension. Toi, je crois que tu es 4-4-2. Mais est-ce que c'est pareil sur tout le reste? Par exemple, tu vois, il a parlé d'un embrayage hydraulique. Est-ce que c'est quelque chose que pour lequel, enfin, est-ce que tu as opté pour ça toi aussi? Voilà. Est-ce que tu peux nous en
Alors, ouais,
parler?
on est carrément libre. Honnêtement, c'est super. Moi, c'est la première fois que je suis confronté à une situation pareille, c'est-à-dire remarque, avec Honda en 2020, c'était un peu pareil, mais je veux dire à développer la moto. Et c'est super intéressant, surtout aux côtés de Jérémy, parce que ben, on apprend pas mal quand même. Et du coup, ben, je suis parti. En fait, j'ai fait par step. Au début, je suis parti sur réglage de Jérémy. Après, j'ai fait à ma sauce. Puis finalement, je suis revenu sur d'autres réglages. Et non, c'est bien. On a des moyens, donc ça permet aussi d'essayer des choses. Après, aujourd'hui, ce qui nous manque, ben, c'est pas forcément les moyens, c'est plus le temps. J'ai pris un peu de retard. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ça va. Je suis sûr que ça va s'arranger encore là, avec la saison qui va avancer. On connaît de mieux en mieux la moto. On est en train de peaufiner les réglages, donc c'est très encourageant.
C'était un peu ma question, tu as un peu répondu, mais est-ce que dans le développement de la moto, c'est Jérémy, il sait tout, et toi, après, tu prends ce qui est bon, ou est-ce que vous le faites ensemble?
Jérémy a essayé beaucoup de choses dès le mois de décembre, qui lui conviennent ou pas. Après, on a des réglages quand même qui sont différents sur les motos. Moi, je suis parti sur une base un peu différente. Et voilà, après, non, c'est tout.
Ouais.
C'est quoi la différence aujourd'hui entre le team que tu as aujourd'hui et celui que tu avais en 2020 avec Mathias Bellino? La machine est rouge, déjà.
La machine est rouge. Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Tu vois, dans le
Bon,
testing, dans les pièces que tu peux, tu vois,
déjà le
est-ce qu'il y a des
pilote.
différences aussi bien? C'est pareil dans
Déjà
tous
le
les
pilote,
teams, j'en sais
un
pas.
peu plus d'expérience. Je pense que j'étais un peu, je ne veux pas dire jeune, mais ouais, j'avais pas cette expérience, je pense, en 2020 par rapport à la 400. Peut-être des mauvais réglages. Je sais pas, peut-être que j'ai pris un peu en maturité. Ça m'a permis de pas me perdre justement dans tous ces réglages. Qu'est-ce qu'il y a de différent après l'entourage? L'entourage, quand même, ça reste le même que j'avais en 2021 et 2022 et 2023. Ça me tenait à cœur de rester avec Jacques et Flo, mon mécanicien. Et puis, c'est une chose qui marche. Donc, ça, je voulais pas le changer. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, c'est quasiment comme les années précédentes, hormis la moto qui a changé.
Et pour le team, c'est quoi le plus important? C'est les classiques, le France, le cross-country? Est-ce qu'il y a une priorité?
Pour moi, tu veux dire?
Bah, moi, j'aurais dit plus pour le team, mais tu peux faire la comparaison entre
Ben,
les deux.
je pense
Ça
que
serait
pour le
intéressant.
team, le plus important envers Jérémy, je pense que c'est les classiques forcément. Du coup, moi, je pense que ce qui leur tient à cœur principalement, c'est le championnat de France d'enduro, à mon sujet.
D'accord.
Après, si je peux aller m'imposer sur des classiques ou rouler devant, bien sûr que j'hésiterai pas. Après, le championnat de France de cross-country, c'était aussi un des objectifs principaux. Malheureusement, on a commis des petites erreurs, c'est quasiment mission impossible pour le titre. Mais par contre, j'ai quand même à cœur de gagner sur les deux prochaines courses.
Ce championnat te tient à cœur aussi, hein, le cross-country, ça fait un petit moment que tu y participes.
Ouais.
Tu l'as déjà gagné, c'est une discipline, tu nous avais dit que ça t'apportait beaucoup à l'enduro, est-ce que c'est toujours le cas?
Ouais, c'est une discipline qui me plaît beaucoup. Pour moi, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir. Ouais, on va dire que le format de course me plaît énormément, que ce soit, tu vois, on parlait des classiques. Les classiques, il faut partir le lundi, voire le dimanche. Là, le cross-country, on arrive le vendredi soir ou le samedi matin pour faire nos repérages. On les fait en vélo. Tout est plus simple. Et c'est vrai que ça me plaît. Après, la stratégie de course aussi me plaît. Moi, je suis quelqu'un de. C'est mon défaut d'ailleurs par rapport à ce week-end, mais je suis un diesel. C'est-à-dire que je mets longtemps à partir. Et ce format de course sur l'endurance me plaît beaucoup. Et puis voilà, ça rassemble un peu toutes les disciplines, même si c'est pas du motocross, cette confrontation directe me plaît quand même pas mal, tout en reliant un peu le format enduro qui ressemble à des spéciales, mixé à des ornières, tout ça, c'est intéressant.
Est-ce que tu peux réexpliquer, parce qu'on a la question justement sur YouTube, comment ça se passe en cross-country?
C'est simple, en fait, si tu veux arriver le dimanche, tu peux arriver le dimanche, clairement. On va dire que c'est comme du motocross avec contrôle technique la veille, le samedi. Le dimanche matin, on a un petit briefing. Après, on a un tour de reconnaissance. La piste, le parcours fait, on va dire, en moyenne entre 8 et 12 km. Ça fait ouais, entre 8 et 12 km, ça fait à peu près en moyenne, on va dire, entre 9-10 minutes au tour. Donc, du coup, on fait un tour de reconnaissance le matin, tous. À la fin de ça, on a les sprint tests. En fait, la sprint test, c'est un chrono sur, on va dire, la moitié de la spéciale. Et qui va déterminer à la fois ton ordre de départ sur la ligne de départ. Et tu vas également marquer des points. Alors, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 3-2-1. Donc, si tu fais le premier temps, tu marques 3 points, puis 2, puis 1. Et
Ah,
ensuite,
d'accord.
ça terminera juste à place de départ. Et ensuite, à midi et demi, tu as le départ de la course. Donc, bah, si tu fais parmi, je crois, les 20, les 15 ou les 20 premiers temps, tu pars en première ligne, etc. Et ensuite, bah, la course est lancée pour 3 heures. Et voilà.
C'est une endurance. C'est une endurance en fait, et ça mixe un peu. Alors, c'est pas le cas partout, mais en gros, ça mixe motocross, enduro et un petit peu d'extrême aussi. C'est ça le concept ou pas?
Je pense que pour cette année, tu peux dire surtout que c'est un mix extrême, un petit peu d'enduro et un petit peu de cross.
Ah,
On a eu
d'accord.
des conditions météo très, très
Ah
difficiles,
ouais, à cause de la météo surtout.
ça a été chaud. Mais oui, en gros, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il faudrait à ce championnat pour que ça arrive au niveau de l'enduro, du championnat de France enduro? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus. Moi, je le vois comme ça de l'extérieur, c'est un petit peu en dessous. Comme tu dis, c'est un championnat peut-être qui a de l'avenir, mais qu'est-ce qui manquerait pour aller au top niveau? Et aller chercher peut-être d'autres pilotes, des top pilotes enduro, quoi.
Ouais, ben, pour aller chercher top pilote, c'est simple, hein. La seule chose qu'il faut, c'est des primes. Tu trouveras des bons crossman s'il y a des primes, c'est tout. L'image, je pense qu'il faut travailler l'image, il faut travailler la promotion. Ben, ça va avec, tu me diras. L'organisation en elle-même, moi, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais bon, après, ça, c'est que mon avis. Tel que la sprintesse, pour moi, je trouve que ça n'a pas lieu d'être par rapport. On part sur une course de 3 heures, faire un chrono de 4 minutes et prendre des points sur ça, je trouve que ça n'a pas forcément de sens. En fait, je pense qu'il faut regarder, même si ce n'est pas le même continent, il faut juste regarder ce qui se passe aux États-Unis, leur format de course. Le GNCC, c'est une discipline qui marche là-bas. Alors, on sait que ce n'est pas le même état d'esprit, mais voilà, c'est simple. Toutes les équipes se déplacent, les stands ont de la gueule. Je pense qu'il faudrait s'en inspirer pour ici. Essayer d'avoir un cahier des charges à peu près identique.
J'étais en train de lire les commentaires, hein, mais c'est pour ça. Bon,
J'aime bien ces suggestions.
ouais,
Vas-y.
c'est pour ça.
Il faut se charger de la com. Ok.
Ouais,
Il faut qu'il fasse beau par contre. Hein. Si on est
par
là.
contre, ouais, quand il y a trop de bourbier, on sort pas
Ouais,
là,
c'est.
pareil.
Après, voilà, ça fait partie de. Les bourbiers, tout ça, ça fait partie du jeu, quoi. C'est comme ça. Là, on l'a vu sur la dernière épreuve en Bretagne. On a eu encore des conditions de fou. Mais bon, le club a su bien gérer ça. La piste était plus courte, malgré le fait qu'on soit nombreux. Mais par contre, la piste était large. Du coup, ça bouchonnait pas trop. Et c'est sur ça qu'il faut travailler parce que on imagine mal avoir 500 coureurs un jour. Imaginons que le cross-country, ça prenne vraiment et qu'il y ait 300 coureurs ou 400 ou 500. Sur une piste qui fait 3 mètres de large, ça va vite être compliqué, quoi. C'est impossible.
Du coup, il t'a manqué quoi toi en début de saison là pour être devant sur cette discipline-là, sur le
Ben,
cross-country?
malheureusement, on a accumulé des petites erreurs techniques. Et ben, du coup, j'ai fait 2 abandons. Donc, c'est pas facile. Après, la vitesse était là quand même. Sur la première épreuve, ben, je revenais de blessure, donc j'avais une semaine de roulage, donc c'était quand même compliqué. J'étais quand même troisième avant de casser. Et puis au fur et à mesure, sur la deuxième, à Dussac, ben, avant ils ont arrêté la course à 1h50 ou 2h, je ne me souviens plus. J'étais deuxième dans la roue du premier, donc j'étais quand même là pour gagner, je pense. Et puis la dernière, ben, j'étais en tête et j'ai eu mon problème mécanique, donc je pense que le rythme revenait au fur et à mesure.
Une question de Corentin, c'était sur Insta, une relance là sur Facebook. Est-ce que tu préférerais pas une machine à café à graines pour les CH ou la Senseo est très bien?
La Senseo me va très très bien. Voilà.
J'ai l'impression justement, si on reste sur ça, qu'en enduro, il y a quand même une bonne ambiance entre pilotes. Bon, c'est logique aussi, il n'y a pas de confrontation directe, donc il y a quand même une bonne ambiance.
Ouais, oui, il y a une très bonne ambiance. Il y a une très bonne ambiance. C'est vrai que cette année, du coup, ben, je découvre quand même. Alors, enfin, je découvre les classiques. J'en avais déjà fait auparavant, mais c'est vrai que là, de les faire à 100%, ben, c'est vrai qu'on a le temps de prendre le café au CH pour le coup. Donc,
Ah oui.
on apprécie.
Donc ça c'est encore mieux. Est-ce que c'est pareil l'ambiance en cross-country?
Comment?
Est-ce que c'est pareil l'ambiance en cross-country?
Ben, les concurrents restent les mêmes, donc oui, l'ambiance est bonne. Après, c'est toujours pareil, c'est un format qui est plus condensé, donc on se voit moins quand même, on est plus dans le rush. Et tu as cette confrontation directe qui fait qu'il y a peut-être un peu plus de concurrence sur le week-end, quoi. Mais après, oui, ça reste quand même bien étendu, c'est très familial.
On a Mamart tout à l'heure qui posait la question. Ouais, la page du mondial définitivement tournée.
Non, elle n'est pas définitivement tournée. Aujourd'hui, enfin, cette année, c'était une saison pour rebondir après les blessures de l'an passé. Du coup, avec Honda, ce qu'ils voulaient, c'est que je sois devant en France, que ce soit sur le cross-country, championnat de France enduro et les classiques. Mais non, la page n'est pas tournée parce que je l'ai vu encore ce week-end, même en n'étant pas encore prêt à 100%, j'ai la vitesse pour rouler devant. Je me suis battu pour le scratch tout le week-end sur les spéciales qui étaient quand même typées championnat du monde. Après, le truc qu'il y a, c'est que je le découvre cette année, c'est que l'équipe, là, elle se structure de plus en plus. Il y a Jérémy qui nous a rejoint encore ce week-end. Et là, je peux évoluer dans des conditions qui sont vraiment agréables. Et c'est des choses que j'avais. Comment dire que je ne retrouvais pas forcément en championnat du monde l'an passé et les années précédentes. On le faisait, je dirais pas à l'arrache, mais c'était un peu plus. On était en nombre plus limité. Du coup, c'était plus compliqué. Et aujourd'hui, si tu veux performer sur le championnat du monde, il n'y a pas de secret. Il faut être structuré, avoir du monde quand même autour, avoir des suiveurs. Donc, repartir sur le championnat du monde en étant très peu entouré comme l'an passé, non, c'est compliqué. Je l'ai vu, c'est très compliqué, surtout pour pas grand-chose. Voire pour rien. Donc, après faire un Grand Prix, parce que je sais que je peux rouler devant sur un Grand Prix, oui, avec plaisir, mais après repartir sur une saison comme ça, non.
On a posé la question tout à l'heure à un client sur la partie scratch. C'est le fait qu'on n'a pas de scratch ici en France. Est-ce que toi, tu le regardes déjà, premièrement, et ça donnait quoi ce week-end, le scratch officiel, on va dire.
C'est
Officieux, pardon.
ça. On fait que ça, là, regardez. Non, après, ben voilà, mes concurrents directs, c'est toujours les mêmes, c'est Théo et Zach. Là, ce week-end, je termine deux fois second au scratch. À chaque fois, la bagarre, Théo était un peu plus rapide le dimanche, il nous en a mis un peu plus. Il a très bien roulé dans le premier tour. Donc, oui, on le regarde tout le temps. De toute façon, si je me contente que de gagner enfin, je pèse mes mots quand je dis ça, mais si je me contente que de la victoire en E1, ben, c'est pas comme ça qu'on progresse, quoi. Il faut regarder de l'avant. Et du coup, non, je me compare aux autres. Après, ils partaient un peu derrière moi. Bon, pas très loin derrière. Donc, parfois, c'est un peu avantageux. Parfois, c'est moi qui ai l'avantage. Mais bon, on le regarde quand même tout au long du week-end, même si c'est officieux.
Ouais, c'est un bon repère, hein, puisque c'est des pilotes qui roulent un mondial.
Après, il faut faire attention aussi parce que ça nous booste. Mais aujourd'hui, vu que c'est officieux, ben, on n'a aucun avantage si ce n'est progresser. À finir devant. Il faut faire gaffe de pas risquer de se blesser non plus pour zéro. Quand j'ai zéro, c'est on marque zéro point. Et si j'aurais beau gagner les deux journées au scratch ce week-end, ça sera que pour ma pomme et puis c'est tout.
Oui, parce que je précise, tu le regardes, mais tu le regardes pas le dimanche soir quand la course est finie, tu le regardes à chaque fois, à chaque spécial.
Oui, mais on le regarde le dimanche soir, mais c'est officieux si tu veux. Il n'y a rien de
Non,
marqué.
mais ce que je veux dire, c'est que tout au long de la journée, tu regardes les temps de tout le monde.
Oui. Ah
Ouais,
oui.
voilà.
Peu place. Hein. À la sortie de chaque spécial, je regardais où on était. J'attendais que Théo et Zach sortent pour me comparer. Je faisais que ça.
Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que t'attends pas le dimanche soir pour regarder ce qu'ils ont fait,
Non,
quoi.
non, non. Ouais, c'est pas le final, quoi. C'est vraiment à
Non,
chaque spécial que tu regardes ça.
non. Ouais.
On avait une question, je voulais la poser à Jérémy tout à l'heure, ça tombe bien, on l'a sur YouTube là. Bon, toi, tu te retrouves à Neuen avec des petits jeunes. Qu'est-ce que tu penses de la génération montante en mondial ou même de manière générale sur la prochaine génération en enduro?
Alors, du coup, je parle de la génération française parce que je sais eux que je connais bien. Il y a une bonne vague qui arrive là. Toute la vague qui est sur le championnat du monde actuellement et même en Europe, on a vu Kylian aussi qui roule bien cette année. Après, moi, on va dire, je connais très bien Romain Dagnan qui a très bien roulé ce week-end et qui était dans ma catégorie. Alors, c'est marrant parce qu'on se croirait à l'entraînement en fait parce qu'on s'entraîne beaucoup ensemble. Et non, c'est bien, c'est une génération qui monte là. On l'a vu début de saison avec, je parlais par exemple de Thibaut, de Alix et de Joyon. Et ils ont roulé devant en junior et c'est cool pour eux, c'est bien. Ça montre aussi que le travail derrière de PMC, de la Fédé, ça porte ses fruits aussi parce que je sais que c'est investi à 200% avec eux. Et on voit que ça marche, donc c'est cool.
Pourquoi les pilotes du mondial font les courses d'enduro italiennes? Une bonne question de MV Racing.
Parce que là, c'est là-bas que la plus grosse concurrence se trouve, que tu as tous les teams du championnat du monde, que les spéciales, qu'en fait, que tu retrouves tout le rythme du championnat du monde, que ce soit les spéciales, les teams, les pilotes, etc. Ils vont tous là-bas pour ça.
Ça serait faisable en France de, je parle sur la partie spéciale, d'avoir, ou du moins du format, d'avoir un format qui se rapproche un peu
Là,
du format italien mondial.
tu venais ce week-end à Rocroi, tu étais sur un Grand Prix de Finlande.
Ok, donc
C'était
c'est bien.
Ouais, non, c'est ce qu'il y a de bien, c'est que là, Jean-Luc Miroir, il le disait, il a laissé un peu libre cours au motoclub de faire à leur sauce. Ils ont un peu arrangé. Il y avait une spéciale, la SP2 de ce week-end, qui était quand même assez dangereuse. Ils ont réussi à mettre des chicanes pour faire ralentir un peu parce que ça allait très vite. Donc, ça, c'était bien. Et donc, du coup, ouais, les motoclubs font un peu à leur sauce, c'est bien. Et là, du coup, ils ont fait en mode. Ouais, c'était un mode un peu Grand Prix de Finlande, beaucoup de racines, des spéciales longues, même trop longues. On est arrivé le mercredi pour opérer. Les deux premières spéciales, elles faisaient en moyenne 8 km chacune. Donc, même en championnat du monde, on n'a pas ça. Donc, c'était top. Ils ont un peu raccourci parce que pour les mecs qui arrivent le jeudi, voire le vendredi, c'est compliqué pour
Ok.
opérer et c'est même un peu dangereux.
On a Laurent qui dit par rapport à l'Italie, il y a des primes tout simplement. Bon, tu nous as pas donné ça comme argument en priorité, mais tu penses que ça c'est ce qui fait qu'il y a moins de monde sur le championnat de France que sur le championnat italien?
Alors, de la part du promoteur, il me semble qu'il n'y a pas de prime. Après, vu que les teams sont là, sont là-bas, c'est là-bas qui paye, quoi.
Ouais, c'est au final c'est les teams qui reversent les primes, c'est le même
Ouais,
système qu'en France, quoi.
comme en France, hein.
Ouais.
Donc
Et
c'est un argument.
pareil, MV Racing qui dit c'est plus dur, il me semble. Alors je sais pas s'il part du niveau ou des pistes.
Ouais.
Les deux sont plus durs.
Encore une, en fait, je me répète un peu dans le sens où tu prends le cas de ce week-end. Je pense que on n'avait rien à envier un championnat d'Italie. En revanche, par rapport aux pilotes, oui, c'est beaucoup plus dur en Italie. Tu prends juste les quatre premiers du championnat du monde, excepté Garcia, mais sinon, les autres, ils sont en championnat d'Italie.
Didi sur Twitch qui nous demande si tu feras le GP de France.
Oui, c'est prévu. C'est prévu et ça me tient à cœur.
GP de France à Brioude, c'est ça?
C'est ça.
Tu te fixes un objectif déjà?
C'est un peu tôt, je pense, pour en parler, dans le sens où je me sens pas encore prêt à 100%. Comme il disait, je sens que je monte en puissance. Je me sens bien sur la moto. Je sais le niveau que je peux avoir quand je suis à 100%. Donc, je dirais que si je me sens bien, un week-end comme ça, c'est viser un podium en catégorie.
Bon, il n'y a jamais de live à Mix Réflexion sans des Bretons en commentaire. Hein. Encore une fois, c'est pas le même qui commente, mais on nous demande si tu seras présent sur l'Armorican TT. Tu y avais déjà participé, toi, en
Non.
2023, c'est ça? 2022,
2022,
peut-être?
on avait les
2022.
ISDE. On
Ouais.
avait les
Ah oui, exact.
ISDE. Il me semble que vous y étiez, non?
Bon, on était aux ISDE, nous, ouais.
Ouais.
ISDE, ouais.
Et donc non, j'avais pas pu participer, mais ça fait partie de. Ouais, j'aimerais vraiment, ça me tiendrait à cœur d'y participer. Ouais, faire une belle équipe avec Honda, c'est vraiment cool.
On a
On a
chauffé
chopé
Jérémy
Jérémy,
tout
il
à
n'avait
l'heure.
jamais entendu parler de ça, mais je pense que ça va. Il suffit de lui envoyer deux textos et c'est parti, quoi.
Non, bah, par contre, j'espère qu'il y aura moins de poussière parce que c'était chantier quand même, j'avais vu des images. Mais la course a l'air sublime, donc ouais, avec grand plaisir.
C'est bien ça. On vous a lancé sur un nouveau défi, c'est
Bon, Jérémy, avec ses poignets, tout ça, je pense que ça va être compliqué, mais s'il est motivé, c'est cool.
24 heures, ouais.
C'est en
24 heures
équipe,
pour être en forme.
ouais, vous le ferez moins rouler, c'est tout.
Ouais.
Vous l'enverrez repérer et après il roulera 1 heure ou 2 de moins que vous, c'est tout.
On verra.
Bon, merci Hugo, c'était cool. Ça faisait plaisir de t'avoir en live. On t'avait eu un petit moment déjà et c'est toujours intéressant de parler avec toi. C'est un live 100% enduro, vu que
Vas-y.
c'était vraiment dans l'actualité de ces 2 dernières semaines. Donc merci à toi de nous
Merci à
être mis
vous.
dispo.
Merci Hugo,
Allez.
bonne soirée tout le monde.
Allez, bonne
Bonne soirée à
soirée.
tous. À
Allez,
plus.
à
Salut.
bientôt.
Ciao.